Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir. Bonjour à vous qui nous suivez actuellement sur la 93.5. Nous sommes au mercredi 24 avril 2024. Il sont 11h, passé de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour ce troisième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokovitogbe est à la mise en onde et à la mise en ligne en même temps, bien sûr, et la mise... Enfin, je suis Pascal Lossou au micro. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktoisi à Dapan. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Comme poisson dans l'eau.
C'est voilà. Important.
Mais dans, pas dans n'importe quelle eau.
Ah bon?
Là, où le, eau là où le poisson se sent à l'aise.
D'accord. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si c'est dans la mer, c'est dans une lagune, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, lui, il est toujours jaloux alors de ses acquis. C'est toujours commandant. Abbas Issaka, bonjour.
Oui, bonjour. C'est toujours commandant.
C'est toujours commandant.
On attend pour évoluer. Si les gens ne se sentent pas à l'aise dans des eaux troubles.
Vous vous sentez quand même à l'aise.
Parce que le poisson, lorsqu'il se trouve dans notre canapole, à part cette eau chaude,
oui.
Même si l'eau est trouble, même là, il est dedans, il, a, oui. Il, est, il respire.
Eau chaude, c'est eau, quoi.
Oui, voilà.
C'est mon eau de prédilection.
Voilà. C'est ça. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons un invité, nous savons très bien que c'est la campagne électorale. Et donc, nous avons un invité pour vous ce matin, bien sûr. C'est M. Semano Prince. M. Semano, bonjour.
Bonjour, monsieur.
J'espère que vous allez bien.
Très bien, super bien même.
Voilà, vous êtes candidat du Parti Uni pour les régionales, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà, alors, dites-nous, comment ça se passe sur le terrain, les activités de campagne?
Non, sur le terrain, ça va.
Ça va?
Ça va, ça se passe très bien. Très bien. La campagne a débuté, je dis merci au Seigneur. Hein. Sinon, ça va.
Ça va.
Dans l'ensemble, ça va.
D'accord. Et c'est vrai, c'est quoi le message que vous adressiez souvent aux gens sur le terrain?
Non, aujourd'hui, je vais le dire que le parti Unir n'a même pas de message. Parce que déjà, les réalisations en parlent. Donc aujourd'hui, sur le terrain, déjà même à certains endroits, et la population, déjà même, ils nous disent, c'est vrai que ça reste, on peut le dire avec humilité, qu'il s'en reste certaines choses à faire. Mais à certains endroits, dans certaines communes, déjà même la population montre déjà la réalisation que le parti uni, c'est-à-dire, je vais parler du PR, a déjà fait dans certaines communes. Il nous montre déjà. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de mots de campagne.
Ça veut dire que les actions parlent d'elles-mêmes, c'est ça?
Les actions parlent parfaitement d'elles-mêmes.
Alors justement, nous allons faire un peu le bilan de ces actions. Et quel est le bilan ou quel bilan peut-on alors dresser aujourd'hui qui pousse l'Union pour la République à solliciter de nouveau le suffrage alors des électeurs?
Non, mais je dirais que d'abord aujourd'hui, le bilan est positif. C'est vrai, nous pouvons le dire avec humilité, que ça reste aussi beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, je dirais que le bilan est positif. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comparer le Togo de 2010, 2005, le Togo d'aujourd'hui. En termes d'infrastructure, en termes de plutôt. En fait, nous ne pouvons pas comparer le Togo d'hier, le Togo d'aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes conscients que ça reste beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, nous avançons. Oui, nous avançons. Donc, le bilan est vraiment positif.
Et concrètement, si vous pouvez toucher les différents domaines, peut-être sur le plan social, sur le plan infrastructure, sur le plan économique, quelles sont peut-être des choses à citer aujourd'hui à votre actif?
Oui, sur le plan économique, le plan social, le plan infrastructure, aujourd'hui, vraiment, il y a de l'avancée. Si nous voulons comparer la ville de Lomé, de 2005 à 2022-2023, aujourd'hui, tout le plan d'infrastructure, il y a de l'avancement. Aujourd'hui, les hôpitaux sont en construction. Oui. Et même sur le plan social, aujourd'hui, il y a tout récemment l'excellence à Mu. Mais bien avant que ça, il y a même qu'on avait mis à disposition des artisans. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ça ne va pas. Que ça va énormément.
Oui. Ça va énormément, mais vous l'avez dit, il y a des défis, puisque vous l'avez dit que par humilité, il faut reconnaître quand même qu'il reste des choses à faire. Donc ça veut dire qu'il y a des défis à relever. Et si peut-être déjà la population ou le peuple alors vous donne encore la majorité à l'Assemblée nationale, c'est quoi ces défis à relever?
Mais vous savez, le plus grand voyage commence toujours par un pas. Oui. Et aujourd'hui, nous avons déjà commencé. Le père a déjà commencé. Et c'est sûr quand même de bon ton d'accorder encore cette chance pour continuer l'œuvre qu'il a commencé. Et oui, aujourd'hui, c'est vrai, dans certaines communautés, dans certaines communes, on s'en rend compte que, mis à part les infrastructures, peut-être sur le plan national pour un député, c'est-à-dire sur le plan international, oui, ça va. Mais certains contrées, certains artères, c'est vrai qu'il faut encore charger. Et déjà, avec tous ces panoplies de programmes et projets que le gouvernement a mis en place, je crois bien que c'est le moment d'accorder la chance au PR pour pouvoir exécuter tous ces chantiers, tous ces programmes déjà mis en place.
Mmh. Mais est-ce que vous ne voyez pas que les populations sont exigeantes sur un certain nombre de choses par rapport à la question de chômage, par rapport à la question de l'électricité et tout aujourd'hui et est-ce que les gens ne sont pas, enfin, la population n'est pas exigeante?
Monsieur le journaliste, même en France, il y a des chômeurs. Même en France, il y a des chômeurs. Mais ça n'en manque pas. Mais il faut commencer. On a commencé à éliminer les problèmes des Togolais. Oui, on ne peut pas dire qu'à 100% il n'y aura pas de chômeurs. Non.
Non, on ne dit pas que du jour au lendemain, ça n'aura pas lieu.
Oui, du jour au lendemain, il y a quand même de nouveaux étudiants qui sortent comme ça. Donc, ça n'en manquera pas. Mais je dis ici que le gouvernement fait quand même de son mieux.
Et oui. Qu'est-ce qu'on veut faire déjà dans la nouvelle législature, du moins quand la majorité sera donnée? Qu'est-ce qu'on veut faire pour réduire le chômage?
Je l'ai déjà dit, n'attaquons pas seulement le chômage. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a mis en place comme projet programme, moi je crois bien qu'ils sont en action. Le gouvernement est en pleine activité pour éliminer beaucoup, bon nombre de maux des Togolais. C'est vrai, parlons des questions d'électricité, là où la société ne peut pas atteindre, ne peut pas toucher, aujourd'hui on met déjà des énergies renouvelables, des centrales en construction. Et oui, on ne peut pas citer des centrales en construction à Brita. Tout récemment, il y a des centrales qui vont aussi démarrer dans Zio 3, je pense bien, qu'il y a plus de 2000 hectares qu'ils ont déjà acquis dans Zio 3. Toujours pour construire. Donc aujourd'hui, en termes d'électricité, je crois très bien que le gouvernement fait son effort.
Oui, pour cette situation. Vous avez parlé des programmes qui sont mis en œuvre et des projets aussi. Quels sont ces programmes? Je voudrais bien savoir, ou du moins ces populations.
Parlons par exemple de l'AMU. La couverture sociale, c'est-à-dire santé, c'est le premier souci. Le chef de l'État dit aujourd'hui, il ne faut pas qu'un Togolais soucie encore de sa santé. Mais ça, c'est déjà un avantage. C'est un programme qu'on doit vraiment exécuter à 100%. Oui. Mais c'est. En fait, aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'il faut. Je l'ai déjà dit que les réalisations parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, on n'en manque pas de mots. Aujourd'hui, les Togolais savent. C'est vrai qu'il y a certains. Il y a quand même des ambitieux. Oui, il y a des ambitieux. Hein? Mais nous ne pouvons pas dire que le gouvernement ne fait pas son effort.
Des ambitieux, vous dites?
Bien sûr.
C'est là où moi je dis plutôt que c'est les populations qui sont exigeantes sur un certain nombre de points. Elles veulent que ceci soit fait, c'est-à-dire leurs besoins soient réglés. C'est vrai que ça ne pourra pas être réglé en un seul jour, c'est important. Maintenant, quand vous allez sur le terrain pour cette opération de charme, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites concrètement aux populations?
Je l'ai déjà dit que par endroit, c'est la population elle-même qui nous montre déjà la réalisation, qui vante déjà la réalisation.
Non, je parle de cette...
Nous, aujourd'hui, on en manque pas de mots. On dit juste ce qu'on a commencé. Accordons-nous la chance de continuer.
Qu'on vous accorde la chance de continuer.
C'est ça.
C'est le mot d'ordre.
Oui. Parce qu'aujourd'hui, faut pas monter dans le véhicule de quelqu'un que tu n'as jamais vu conduire. Tu risques de perdre peut-être un coup de chemin de ta vie. Aujourd'hui, vous avez vu, aujourd'hui, il y a des réalisations qui parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, le gouvernement, le chef de l'État, fait de son mieux. Des partenariats d'ici par là pour pouvoir satisfaire les Togolais. Oui, je l'ai déjà dit, que la satisfaction ne peut pas être à 100%. Mais il fait vraiment de son mieux. Oui. Aujourd'hui, en termes d'eau, vous voyez, les châteaux d'eau en construction dans les villes de Lomé, on ne peut pas en citer. En termes d'électricité, je l'ai déjà dit. En termes sociaux, aujourd'hui, vous connaissez qu'il y a aujourd'hui la gratuité d'école par endroit. Les frais d'examen éliminés par endroit. Mais il fait de son mieux, monsieur le journaliste.
Il fait de son mieux. Et comment vous êtes accueilli par ces populations quand vous leur dites de vous accorder une nouvelle chance?
L'accueil est favorable et la population est réceptive. Oui, je vous dis, très favorable. Par endroit, même ils nous disent que non, c'est vrai que ça ne sert à rien de disperser les voix. Oui, oui, l'accueil est très favorable.
Alors, en tant que candidat, oui. Concrètement, qu'est-ce que les populations doivent attendre alors de vous?
Oui, je dis, les attentes ne peuvent pas être les mêmes, ça dépendra des communes. C'est vrai que par endroit, c'est-à-dire là où la population a besoin d'électricité, ailleurs c'est peut-être de l'eau. Vous voyez, non? Donc de toutes les façons, les programmes, nous serons là pour exécuter les programmes en cours. Nous connaissons déjà le problème de Togolais, par commune. Par endroit.
Et c'est quoi ces problèmes?
Oui, par ailleurs, c'est question d'eau, par ailleurs, d'autres endroits, c'est question d'électricité. En cours. Et je l'ai déjà dit, les centrales sont en construction. En termes d'eau, c'est vrai. Et l'excellence, monsieur le ministre, fait de son mieux aussi pour régler ceci. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus se plaindre. Je l'ai déjà dit, de toutes les façons, nous ne pouvons pas comparer le Togo d'hier au Togo d'aujourd'hui.
Oui. Le Togo d'hier n'est pas comparé au Togo d'aujourd'hui. Il y a des changements.
Bien sûr.
Il y a de l'évolution.
Bien sûr.
Alors, comment on peut reconnaître une issue sur le bulletin? Je vais bien parler de votre positionnement.
Non, vous savez, Unir aujourd'hui, déjà, nous connaissons déjà la couleur du parti Unir. C'est le blanc-bleu. Hein? Vous verrez la colonne blanche qui est logée dans le fond bleu. Oui, d'ailleurs c'est le logo le plus joli, hein, visible, hein, le logo le plus visible, hein, et partout déjà, nous on le dit, déjà, il faut juste, d'ailleurs, déjà, vous verrez la colonne blanche, logée dans le fond bleu, et c'est notre logo.
Oui. Vous demandez aux artisans de tous bords, hein, de voter pour vous, pourquoi les artisans vous intéressent tant?
Merci, merci. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons comparer le secteur de l'artisanat d'hier, je suis moi-même le président régional de la Chambre de métiers, du district autonome de Grand Lomé. Mais si nous voulons comparer le secteur hier à aujourd'hui, il y a vraiment de l'avancement. Oui, il avait d'abord érigé ce secteur, ministre, que nous n'avons pas. Mis à part ça, l'assurance INAM dans ce pays, il avait déjà mis à disposition des artisans. Oui, au moment où il y avait les gratuités, des frais, de scolarité, d'examen, mais on a approché et ça a été vite fait. Aujourd'hui, on se plaignait, on avait mis FNFI à disposition des commerçants, mais on s'est dit, mais écoutez, mais ça a été vite fait. Et aujourd'hui, avec le fonds, paf, et il faut juste avoir, hein, sa carte professionnelle et sa carte CFE pour avoir 500 000 francs gratuitement comme ça. Et il y a d'autres projets mis à disposition des artisans. Aujourd'hui, les artisans,
quels sont ces
juste
projets?
Après, oui, juste après, les jeunes qui sortent de l'apprentissage, juste après, on achète des machines, on les confie à projets d'entretien, des trucs là, et les machines sont mises à disposition pour l'insertion à la vie sociale professionnelle. Mais aujourd'hui, avec toutes ces réformes opérées au sein du secteur, mais les artisans sont conscients. Ils ne peuvent que dire merci. Je dis bien merci au chef de l'État. D'ailleurs, même les artisans disent que mais cette élection, ce n'est pas pour aller voter, c'est pour aller dire merci au chef de l'État. Oui. En tout cas, nous le disons que non. C'est juste, c'est une action de nous, les artisans, pour mener. juste pour dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour le secteur.
Mmh.
Oui. Et aujourd'hui, les vitrines en construction de Lomé en Saint-Cassé, les vitrines sont construites. Les bureaux régionaux sont construits. Mais écoutez, mais les véhicules, tous les bureaux régionaux sont dotés de véhicules pick-up. Oui. Tout récemment, ils ont encore donné un véhicule à la fêtière. Hum? Et la subvention est tout. Écoutez, nous, si un artisan, en fait, sauf qu'il est inconscient, vous ne pas dire merci au chef de l'État.
Et donc, vous appelez les artisans à dire merci au chef de l'État?
Bien sûr, bien sûr.
Et quelles sont les grandes réalisations que vous avez à l'endroit des artisans? Et si le choix est porté alors sur votre parti pour être majoritaire, bien sûr, à l'Assemblée nationale?
Oui, 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 je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, c'est vrai.
Oui, je parle des artisans.
Nous sommes conscients, nous savons que ça reste beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, on se dit, si le choix est porté sur nous, c'est vrai. On fera en sorte quand même que le secteur soit plus organisé. Et surtout, nos apprentis qui vont sortir, il faut qu'il y ait... Les centres sont bien construits, bien sûr. Les centres sont construits, bien sûr. Mais il y a un manque des machines. Donc, nous disons que non, il faut qu'ils dotent ces centres-là des machines, vraiment, pour que ces jeunes qui vont sortir puissent encore essayer dans ces centres-là avant de se lancer sur le terrain. C'est vrai qu'on a quand même bouclé ces étapes de formation. Vraiment, on a des formations, la FNAPP qui essaie de nous envoyer des fonds pour former les artisans. Et maintenant, on a fini ces étapes de formation. Et maintenant, c'est l'étape de la réalisation. Et on se dit juste après, il faut qu'on mette à disposition de ces artisans des machines professionnelles, pour qu'aujourd'hui, nos artisans du pays soient compétitifs sur le marché national et international. Mais c'est ça le programme en cours.
Vous êtes déjà dans le domaine de l'artisanat, bien sûr, tel que vous l'avez dit tout de suite. Comment arrivez-vous à convaincre ces artisans?
Je l'ai déjà dit que les réalisations partent demain. Même au niveau du secteur, on sait très bien que le secteur, si nous voulons comparer le secteur hier à aujourd'hui, il y a de l'amélioration. Je l'ai déjà dit qu'on a et bouclé ces étapes de formation. Et aujourd'hui, il faut mettre à disposition de ces artisans des machines. C'est vrai, on a fini des formations. C'est de fond qu'on a mis à disposition pour pouvoir les former. Parce qu'il faut faire venir des experts de l'extérieur pour les former. Mais après tout, les machines utilisées pour la formation en manquent ici. Et maintenant, c'est le moment de mettre à disposition de ces artisans former des machines de quoi, pour pouvoir les servir, pour qu'ils soient compétitifs sur le marché. C'est vrai que si nous parlons de la compétitivité, il faut d'abord la formation. Et aujourd'hui, le temps, l'artisan d'hier, il faut prendre 2 heures, 4 heures, un jour, peut-être pour coudre un habit. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, peut-être il faut 2 heures de temps pour coudre le même habit. Et qu'est-ce qu'il en manque? C'est juste les machines. La formation, on a déjà bouclé ces étapes. Oui, on a bouclé. Maintenant, il faut mettre à disposition l'outil, les moyens nécessaires pour qu'ils soient compétitifs. Maintenant, c'est le programme en cours.
Un souci souvent chez les artisans ou ceux qui sont en apprentissage, souvent avec les jeunes, c'est que après avoir appris le métier, bizarrement, il arrive quand même qu'ils ont des difficultés quand même à ouvrir alors un atelier. Et ce sont ces artisans que vous verrez ou ces jeunes que vous verrez alors dans la zone franche. Qu'est-ce que vous pensez alors sur cette question?
Oui, c'est vrai, il y a cette question. Mais le chef de l'État avait déjà réglé cette question à moitié, pas même à moitié. Aujourd'hui, il y a un produit à disposition. Juste après votre diplôme CFA, vous allez constituer un groupe de 3 personnes. Et aujourd'hui, c'est le cas. Il y a un produit. On mettra 300 000 francs à votre disposition. Juste pour la location et autres, pour commencer. Il y a ce projet. Et mais à part, je l'ai déjà dit, et s'il y a un projet d'entraide, ou juste après, on mettra des machines à votre disposition, on vous donnera gratuitement des machines pour pouvoir aller vous installer. Oui.
Avec ce projet, est-ce que les jeunes, vous voyez l'engagement de ces jeunes à s'investir pour se regrouper, tel que vous l'avez dit, pour arriver à créer quelque chose?
Oui, oui. Bon nombre sont engagés. Bon nombre. C'est vrai qu'on continue la sensibilisation, il faut vraiment les parler. C'est vrai aussi, le quotidien des Togolais, que juste après, il faut qu'on soit en même temps aisé, comme peut-être le patron, la patronne, chez qui on a appris. Oui, il faut leur parler que non, ce n'est pas ça. Parce que le temps que ta patronne ou bien ton patron a mis avant d'être au niveau où toi tu l'as vu, ce n'est pas un an, deux ans. Et bien nos jeunes, juste à la sortie, ils pensent que non, il faut être en même temps au niveau de sa patronne ou bien de son patron, oui. Mais nous continuons quand même à les sensibiliser que non, ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas évident.
Est-ce que ce n'est pas de l'ambition?
Justement, c'est ce que je veux dire, c'est de l'ambition. C'est de l'ambition. C'est de l'ambition. Mais il faut leur parler que non, ça ne peut pas être automatique de cette manière. Oui. Vous savez,
qu'on ne plante pas aujourd'hui, on mange le fruit en même temps.
C'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, nous pensons mettre le maïs, sous soleil, le lendemain, avoir en même temps. Non, ce n'est pas que ça. Nous continuons quand même à le sensibiliser, à leur parler. Oui, ça nous a vraiment pris du temps, mais aujourd'hui, je crois bien, je l'ai déjà dit, que nous ne pouvons pas comparer le secteur hier à aujourd'hui.
Et il y a justement des défis, hein, beaucoup de défis également dans ce secteur. Je sais que vous êtes bien sûr au courant, conscient également de ces défis.
Oui, ça ne peut pas en manquer. Ça ne peut pas en manquer. Parce qu'aujourd'hui, on peut compter 3000, mais demain, ce ne sera plus que 3000 artisans qu'on va compter. Vous comprenez? Et du jour au lendemain, c'est ça. Le besoin, oui, mais nous faisons quand même de notre mieux. Et avec l'appui, franchement, c'est aussi l'occasion de dire merci à Madame ministre du Commerce et de l'Artisanat et de la Consommation locale,
Madame Lido.
Oui, qui ne dort pas. Et aussitôt saisie, je dis bien, et elle cherche à régler en même temps nos soucis, nos problèmes. Oui, le problème majeur que nous rencontrons, c'était le problème de diplôme, parce que juste après l'examen, le diplôme, ça tarde. Mais juste à son arrivée, elle dit non, il faudrait qu'on mette des formules, que ça ne soit plus encore des trucs là. Et aujourd'hui, c'est un truc là qu'elle a confié vraiment à un centre informatique de régler ça d'une manière, d'une autre, qu'aujourd'hui, les trucs là même vont porter les codes QR et aussitôt passer l'examen, et vous aurez même temps votre diplôme, de juste deux jours. C'est vrai. Donc, les trucs là sont en cours. Bon, je dis vraiment merci à la grande dame là pour ce qu'elle fait. C'est ça.
Et sur le terrain, vous rencontrez justement les autres partis, hein, politiques, surtout notamment les partis alors de l'opposition. Comment l'ambiance est souvent entre vous?
Non, je l'ai déjà dit qu'il y a vraiment des ambitieux. Il y a des ambitieux, oui. Il faut aussi essayer de voir. Mais je dis, ce n'est pas le moment de prévoir. Nous n'allons pas disperser des voix.
Voilà,
c'est que l'enjeu est de taille, et si nous connaissons ce qu'il faut faire, moi je ne crois pas qu'il faut. Ce n'est pas une élection locale, hein. Oui, il faut constituer un groupe quelque part, pensant qu'il faut gagner. Non.
Hein, pour vous, c'est quoi l'enjeu de ces législatives et régionales?
Oui, vous savez que c'est la première fois. Qu'on entre de coupler ces deux élections, c'est-à-dire élections législatives et régionales. Et vous savez, le communal passé, il y avait des groupes, les gens qui se sont dit indépendants et ils se sont sortis. Ils pensent que c'est la même chose. Ils pensent que c'est la même chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'aurais même le conseil de dire non, ça ne servira à rien de perdre encore de temps, d'énergie. Non. Et puis peut-être se joindre à nous, pour avancer. C'est mieux. Aujourd'hui, on parle des partis politiques. C'est vrai. Il y a ces partis. Ça n'en manque pas. Dans tout pays, ils doivent exister de l'opposition. Oui.
Est-ce que l'enjeu ne devient pas encore grand quand nous sommes sur le point de basculer d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire?
Non. Pourquoi l'enjeu serait grand?
Puisqu'il faut avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Il faut avoir la majorité.
Oui. Mais vous savez.
Et le président de la République doit venir alors de la majorité telle que ça a été stipulé.
Oui. Vous savez, d'abord, je dis merci au chef de l'État et surtout l'ensemble des députés, quand même, pour ce régime adopté. Oui. Et si nous voulons calculer en termes de monnaie, consommance, des dépenses que nos élections nous coûtent, on allait construire des hôpitaux. Oui. Mais aujourd'hui, je dis, si on veut partager le pouvoir, et d'autres disent que non, c'est pour confiter, c'est pour. C'est le président de la République qui doit être la première personne à être contre cette décision. Parce qu'il voit son pouvoir réduit. Vous comprenez? Mais ce n'est pas d'autres personnes de réclamer ça. Et plus que ça, je l'ai déjà dit, avec cette nouvelle loi, cette nouvelle constitution, je dis, c'est une, je ne sais pas comment se dire, une alternance. Qui ne dit même pas son nom.
Une alternance qui ne dit pas son nom, mais on comprend tout simplement que depuis un temps, du parti RPT jusqu'à Unir, la majorité est souvent de votre côté.
Bien sûr.
Oui, donc quand vous parlez alors d'alternance, je ne vois pas alors en quoi l'alternance se fera si vous gardez la majorité.
Eh bien, écoutez, si on parle de l'alternance, ça ne veut pas dire qu'on va perdre la majorité. Parler de l'alternance ne veut pas dire perdre la majorité.
Oui, mais si vous avez la majorité, le président de la République vient de la majorité.
Mais ça ne veut pas... En fait, moi, je dis même que le vrai souci des Togolais, ce n'est pas le prochain, sauf ses ambitieux politiques. Hein? Le souci des Togolais, c'est de manger 3 fois par jour. Le souci des Togolais, c'est juste qu'ils sont malades, ils tombent malades. C'est de faire soigner.
Donc, ce n'était
le
pas...
souci des Togolais, oui. C'est d'avoir l'électricité, de l'eau potable.
Donc,
le souci des Togolais, c'est de désenclaver, etc. Oui, ce n'est pas le fait le pouvoir. Monsieur le journaliste, vous voulez être président? Non, vous voulez être exé. Vaguez à vos préoccupations. Vous voulez être donc dans une sécurité permanente.
Ça veut dire qu'au fin fond, ce n'était pas le régime qui proposait alors de problème. Le régime présidentiel, c'était pas alors ce qui, ou semi-présidentiel, c'était pas alors le problème alors du Togolais.
Non, en fait, mais c'est une loi adoptée, votée par la majorité des députés. Mais écoutez, mais à l'Assemblée, il y a des députés, des opposants. En fait, de l'opposition, je veux dire. Vous comprenez avec moi. Et oui, mais ils ont étudié. Et c'est nous-mêmes qui avions accordé nos voix à ces députés. Mais pourquoi les critiquer alors? Non! Non! Mais on ne peut pas accorder sa voix à quelqu'un de décider de parler à son nom et après tout critiquer ce dernier. Non!
D'accord. Pour ce qui concerne surtout la campagne électorale, nous y sommes et nous en parlons. Quelles sont aujourd'hui les consignes de vote pour les électeurs qui nous écoutent et qui peut-être alors n'ont pas encore fait leur choix?
Bon, je l'ai déjà dit, pour voter le Parti Unir, vous connaissez déjà le logo. Je l'ai déjà dit, le logo le plus joli, hein? C'est-à-dire la colombe blanche logée dans le fond bleu. Mais ça ne sert à rien de disperser les voix. Oui, oui, le vote utile, c'est de voter Parti Uni.
Alors nous vous donnons pratiquement 2 à 3 minutes alors pour convaincre votre électorat. Pour leur dire exactement en quoi ils doivent choisir le Parti Unir le 29 avril prochain.
Merci, merci. Nous devons choisir le Parti Unir. Parce que déjà, le parti, le président de la République s'est déjà engagé. Il est déjà engagé. Je l'ai déjà dit que nous ne pouvons pas comparer le Togo d'hier au Togo aujourd'hui. Et il est déjà chantier. Le plus grand voyage commence toujours par un pas. Et il est déjà loin. Nous ne pouvons pas l'interrompre. Dis non, ce que tu as commencé à arriver ici, non, laissez. Et c'est quelqu'un, peut-être qu'il va revenir avec d'autres projets. Non. Non. Ça, c'est perte d'énergie, c'est perte de temps. Nous voulons avancer. Je dis bien, nous voulons avancer. Et nous ne voulons pas voir aujourd'hui. Ailleurs, aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne peux pas sortir pour même dépenser. Oui. Mais nous sommes vraiment dans une sécurité. En fait, de toute façon, à Lomé, nous sommes dans une sécurité. Rentrez dans certaines capitales, vous allez voir. Hein? Donc aujourd'hui, j'appelle tous les Togolais, en fait, à voter le Parti Uni. Voter le Parti Uni, d'abord, c'est de faire de bons choix. C'est de faire de vote utile. Et c'est de dire oui à ce que le chef de l'État a commencé. Et encore de l'accorder la chance pour continuer. Oui. Moi, je l'ai déjà dit ailleurs. Hein? Mais nous n'allons pas perdre nos énergies. Non. Nous devons voter. C'est-à-dire voter utile. C'est voter Parti Uni. Et oui, pour accorder toujours la chance au chef de l'État de continuer les œuvres qu'il a commencées, hein, et le gouvernement dans son ensemble. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où il faut bien sûr partager le pouvoir et il fait appel à l'opposition de tous bords de venir ensemble. Donc, moi, je dis déjà, après le 29, je crois bien qu'on sera ensemble pour gouverner. Oui.
Après le 29, on se réensemble pour gouverner. Et vous l'avez dit, pour voter utile aujourd'hui, il faut voter le Parti Uni, l'Union pour la République. Monsieur Simanon Prince, merci d'être passé dans cette émission.
Merci à vous.
Ça fait toujours plaisir de vous avoir avec nous et nous allons continuer le débat entre nous, journalistes, ici. Merci d'être passé, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous sommes entre journalistes bien sûr. Sylvestre, rebonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
Je pense que vous n'avez pas été écouté. Et rebonjour.
Oui, rebonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous. C'est bon maintenant?
Oui, c'est bon. Je vous écoute et je sais que les auditeurs vous écoutent.
D'accord.
Abbas, rebonjour.
Oui, rebonjour Pascal. Rebonjour aussi aux auditeurs, aux auditrices de la radio Canal FM.
Sylvestre, c'est vrai, quand on prend la campagne électorale aujourd'hui, puisque nous allons en parler, la campagne électorale, c'est depuis le samedi 13 avril qu'elle a été ouverte. Quelle appréciation vous faites alors de la campagne jusqu'à à présent, puisqu'il reste pratiquement 4 jours hein, pour que cette campagne prenne fin?
Non, écoutez, de manière générale, tout se passe dans les règles de l'art et tout se passe dans la paix. Et surtout ça, je crois que depuis quelques années aujourd'hui, je crois que nos campagnes, hein, au niveau donc, des campagnes électorales, il n'y a plus souvent donc, de heurts. Il arrive que même deux équipes donc, de différents partis politiques se retrouvent. Mais c'est presque la fête, c'est presque donc le grand amour. J'ai vu même sur certaines images, sous fait que je ne donne pas le nom des partis pour faire de la promotion, mais j'ai vu deux partis hein, avec les tricots et tout ça, faire presque la campagne au même niveau. Voyez-vous, c'est-à-dire que chacun avec son t-shirt et tout ça, mais ils ont approché donc des gens dans un espace donné, eux tous ils sont là. Je crois qu'ici on arrive donc à avoir ces gens d'image. Je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, s'il faut revenir un peu sur les messages comparativement à nos quotidiens, je crois que c'est là où on trouvera beaucoup de choses à dire parce que il y a beaucoup qui promettent le ciel et la terre. Il y a beaucoup qui se fondent sur un certain nombre donc de bilans pour demander à ce que les électeurs puissent donc leur faire encore confiance et voter encore pour eux. Mais en réalité...
C'est une opération de charme, donc on pourra oui, quand même se laisser oui, aller par oui. certaines promesses.
Oui, oui, généralement, c'est une opération de charme. Mais je crois qu'il y a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas donc, de morale en politique. Mais je crois que j'en connais quand même certains hein, qui font la politique avec une bonne dose de morale et d'éthique. Voyez-vous, lorsque vous promettez ciel et terre, pour les élections... législative, un député ne peut pas promettre d'ailleurs à une contrée que si je suis élu, je viendrai donc de faire les routes, c'est pas son rôle. Voyez-vous, si je suis élu, je ferai tout pour qu'on puisse au moins faire venir un marché ici. Voyez-vous. Donc, voilà, il peut le dire d'une manière où il va faire peut-être un lobbying.
Oui, justement.
Mais généralement, c'est pas son rôle en fait. Le rôle du député, ce n'est pas d'aller construire des routes. Voyez-vous, le rôle du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement, c'est de légiférer et tout. Donc, il revient au gouvernement hein, de faire et ces gens donc de réalisation. Mais bon, lorsque vous écoutez beaucoup de choses sur le terrain, il y a certains qui se disent que nous sommes élus. Déjà l'année prochaine, il y aura donc un grand lycée ici. Lorsque vous écoutez ces genres de choses, bon, généralement, ce ne sont que des promesses qui, à la longue, se révèlent démagogiques ou ce ne sont que des contes de fées, des canulars qu'on a toujours véhiculés ici et là. Maintenant, bon, c'est les campagnes. Donc, moi, depuis un moment, je me réserve donc de commenter pour l'instant donc les messages donc des uns des autres parce que il y a certains disent non nous avons fait des réalisations donc nous n'avons même plus besoin donc de parler parce que ces réalisations parlent pour nous. Effectivement, ces réalisations parlent, mais en quel sens, en quel terme? Aujourd'hui, la pluie, vous avez vu la ville de Lomé, vous avez vu certains marchés qui sont inondés, c'est des réalisations, c'est un parti ou c'est un gouvernement qui l'a réalisé. Donc, s'il y a inondation, ça veut dire que ce sont des résultats qui vont sur ce candidat-là, mais pas nécessairement en bien.
D'accord.
Voyez-vous.
Abbas, c'est cela. Est-ce que vous avez la même impression aussi sur les messages? Est-ce que pour vous, les messages sont aussi des messages, des promesses démagogiques?
Oui, il y a certains, parce que quand vous voulez faire la campagne, nous sommes en période de communication électorale.
Électorale.
Et chacun dit ce qu'il pense. Ce qu'il a à faire.
Pour convaincre.
Mais il faut connaître que le rôle du député, lorsqu'il est élu, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Le reste, peut-être qu'il peut créer un cabinet quelque part dans son lieu pour au moins recruter deux ou trois personnes qui vont pouvoir, s'il s'agit d'un juriste, d'un économiste ou d'un sociologue, pour que lorsqu'il y a des lois à voter pour le développement de la population, c'est-à-dire du pays, en termes d'économie, lois au niveau des lois juridiques, que ce soit le cabinet là qui étudie en son sein et avant de l'envoyer. Sans moi qu'il peut recueillir même, le cabinet peut recueillir les besoins des populations et ce député peut faire des lobbies auprès de certains partenaires, même auprès du gouvernement, qui va les mettre en pratique lorsque il sent que le besoin se fait beaucoup sentir. Donc aujourd'hui, les campagnes, les gens font des promesses. Je me rappelle à une... c'est lorsque il y a présentation des vœux au chef de l'État, Feu Gnassingbé Eyadema, il avait dit que pendant les élections, lorsque vous faites campagne, n'allez pas faire des campagnes et des promesses démagogiques que vous ne pouvez pas réaliser.
La vidéo a circulé
ces derniers temps. Donc, lorsque vous faites des promesses et que vous n'allez pas les réaliser, la prochaine fois vous allez retourner, les populations vous demanderont ce que vous ne vous avez promis là. Où est ça? Et vous voulez qu'on vous réalise encore. Et vous allez gratter votre tête. Donc, aujourd'hui, par rapport à ça, chacun n'a qu'à prendre conscience et dire que voilà. Et on a l'impression que les législatives ont avalé les régionales. Parce qu'on entend beaucoup plus parler des législatives que des régionales. Alors que c'est un scrutin couplé. Et le candidat qui vient de partir, il postule pour les régionales. Heureusement qu'il est venu parler de ça pour faire aussi savoir qu'il y a aussi
là aussi, est-ce que ce n'est pas un problème de communication?
Oui, c'est ça le problème de communication. C'est pour ça que je félicite le candidat qui est venu. Ils ont pris l'initiative de venir parler pour les régionales. Parce qu'il est candidat pour les régionales. On ne le sent pas beaucoup plus au niveau des autres candidats où c'est focalisé rien que sur les législatives. Alors qu'il faut aussi parler. Je ne sais pas si lors des campagnes, lorsqu'on se retrouve de porte en porte, quand on fait les tournées, les quoi de porte en porte, ou les meetings, tout ça là, on évoque tout ça. Mais il faudrait que les gens sachent que nous allons à une élection régionale et à une élection législative. Donc, que la population sache ce qu'elle doit faire et comment voter. C'est ça que j'ai dit. Il ne faut pas qu'on mette en exergue ou bien qu'on mette en minorité les régionales. C'est aussi des élections très importantes, puisque c'est des élections qu'on n'a jamais eu à organiser. Et cette fois-ci, on les organise. Expliquer aux populations qu'est-ce que c'est que les régionales. Et les gens vont comprendre. Et les choses. Sinon, si on met toujours les législatives, on oublie les régionales. Je pense que ce serait un peu...
D'accord. C'est quoi les enjeux aujourd'hui alors de ces doubles scrutins ou ce double scrutin quand même qui nous attend le 29 avril prochain?
Non, il faut dire que l'enjeu est de taille. Hein. Là, c'est un enjeu capital. Pourquoi? C'est en ce sens que aujourd'hui, c'est les... oui, la nouvelle constitution donc est votée ou adoptée la dernière fois. Bon, il reste à promulguer. Je crois que ça, à moins d'un miracle, ce serait promulgué par le chef de l'État. Mais vous conviendrez avec moi qu'après les élections régionales, c'est à ce niveau-là qu'on va et donc mettre sur pied le Sénat. Et donc, c'est les deux chambres aujourd'hui, puisque avant, quand on parle de Parlement, et en faisant une fixation sur l'Assemblée nationale, c'est un abus de langage. Parce que si vous prenez donc la disposition, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat en réalité qui forment le Sénat, le Parlement.
Le Parlement.
Donc aujourd'hui, on aura un Parlement, on aura les deux chambres en fait, et c'est les deux chambres qui vont donc élire le président de la République et le président donc du Conseil des ministres. Mmh. Et bon, à terme courant, premier ministre et tout ça. Donc, voilà, donc il se fait que tout le monde doit se battre aujourd'hui, hein, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition, tout le monde doit se battre au moins pour avoir et assez donc de représentants au niveau donc des deux chambres, et pour que bon, s'il peut y avoir peut-être une minorité de blocage sur la personne donc choisie peut-être par un camp et tout ça. Donc ça veut dire que l'enjeu est de taille. C'est pourquoi vous avez vu que malgré hein, tout ce qui se passe aujourd'hui en termes donc d'organisation donc du scrutin, l'opposition y tient. Hein, il ne veut plus quand même. Bon, elle ne veut plus observer ce boycott là que nous avions vu en 2018 et qui malheureusement donc nous poursuit, hein, poursuit quand même le pays jusqu'à là à ce qui s'est passé le 19 avril dernier. Donc tout le monde tient à y être encore que. Il y a augmentation aussi du nombre de sièges au niveau donc de
l'Assemblée nationale.
Donc je crois que il faudrait que tout le monde ait quand même cette possibilité donc d'être au Parlement. Mais ce que je veux véritablement après donc ces élections, il faudrait qu'on ait un Parlement représentatif. Voyez-vous, un Parlement qui est presque la représentante nationale, comme on le dit très souvent, elle représente donc le peuple de l'Épargne. Ce qui s'est fait la dernière fois, ma foi, je me dis que ça nous reste encore comme une arête dans notre gauche, parce que des gens, hein, 87 personnes ne peuvent pas décider pour près de 9 millions de Togolais.
Et après, ce sont les représentants du peuple.
Non, écoutez, ça, je crois que c'est ceux qui le disent, ils le disent malgré eux, quoi. Parce que ceux-là, en réalité, vous ne pouvez pas représenter un peuple. Et quand le peuple dit non, nous ne voulons pas, vous persistez, vous signez, vous continuez.
Mais le peuple devait dire non au niveau alors du
référendum.
Le référendum n'a pas été
organisé. Voilà, donner la possibilité au peuple. Pour les quatre dernières, hein, les quatre dernières républiques que nous avions eues avec quelques jours, on a donné la possibilité au peuple de se prononcer dans les urnes. Hein, il faut qu'il y ait un référendum. Et vous avez vu que même la dernière constitution, bon, du moins c'est la constitution de 92, hein, celle qu'on vient donc de signer son arrêt de mort, vous avez vu que c'est le peuple qui a voté à plus de 98%, voyez-vous. Donc si on donne la possibilité au peuple et que c'est le peuple qui choisit, parce qu'en réalité c'est un pacte social, c'est un contrat social. La constitution en réalité c'est un contrat social. Donc il faut véritablement qu'on donne la latitude au peuple togolais, hein, au peuple qui est le au peuple souverain. Parce qu'en réalité le pouvoir en réalité appartient au peuple. C'est le peuple qui est souverain, c'est lui qui décide, c'est lui qui dit oui, je vous donne mandat d'aller faire ceci, voyez-vous. Donc il faudrait quand même qu'on puisse demander à ce peuple-là. Et puis je voulais en fait dire deux mots rapidement sur la campagne. Je vais peut-être vous choquer, même pour moi, tout ce qui se fait depuis le 13 avril jusqu'à aujourd'hui, la campagne, je me dis que c'est un cérémonial qui, en réalité, ne séduit plus les Togolais, en réalité. Quoi, voyez-vous.
Comment ça?
C'est-à-dire que les Togolais ne sont plus... Le Togolais n'est pas dupe. Le Togolais n'est ni dupe ni bête. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce pays, le Togolais... Un lambda est au courant. Et donc, ce que les gens viennent dire aujourd'hui, oui, si vous faites, nous allons faire ça, le Togolais l'écoute. Mais il connaît tout le monde en réalité. C'est-à-dire que si tu sois de l'opposition, que si tu sois du parti au pouvoir et tout ça, le Togolais connaît tout le monde presque. Voyez-vous? Donc, tout ce que les gens font aujourd'hui, en termes de sédition, non. Le jour là, vous verrez que, parce que dans ce pays, les gens ont crié, hein, dans l'histoire, mais les diables et les pots. Vous connaissez ces chansons. Mais en réalité, qu'est-ce que vous avez eu en 90? Vous avez vu? C'est les mêmes qui ont soutenu que, bon, c'est la personne là que nous voulons. Mais plus tard, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est un cérémonie qui ne se dit pas. Les Togolais savent que, bon, ceux qui viennent, ce ne sont que des gens qui racontent donc leur vie, qui racontent des contes de fées. Mais le jour là, ils seront, ils voteront, vous verrez. Et si les choses se passent bien, vous verrez.
D'accord. Abbas, vous avez aussi la même impression sur l'enjeu, hein, de ces élections ou de ce double scrutin qui nous attend, et que ces deux scrutins ont vraiment un enjeu de taille.
Oui, c'est un grand enjeu. Un enjeu de taille par rapport à ces élections, à ce double scrutin que nous attendons le 29 avril prochain. Je pense que c'est très très important, surtout que aujourd'hui on est en train d'aller dans la 5e République avec une nouvelle constitution et avec une nouvelle législature qui sera beaucoup plus forte. Et également avec les conseillers régionaux qui vont élire des représentants qui seront aussi beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Ce qui veut dire qu'on n'aura même plus une élection présidentielle directe. Ce serait une élection indirecte et que c'est les députés qui vont choisir nos dirigeants, nos prochains dirigeants et le Premier ministre, qu'on appelle président du Conseil des ministres, et le président de la République. Donc c'est là l'enjeu même de la situation. Et aujourd'hui, tout le monde doit se battre pour avoir cette majorité-là au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que vous avez vu que tout le monde s'est mis sur le terrain, s'est lancé dans l'arène pour aussi séduire et faire la cour aux électeurs pour qu'ils soient élus, pour qu'ils aient la majorité à l'Assemblée nationale et pouvoir même constituer, s'il le faut, une minorité de blocage si on ne peut pas avoir la majorité totale. Et c'est pour ce circulaire, c'est que ça appelle même à des alliances après même les élections. Les gens peuvent même constituer, se parler et se trouver pour avoir des alliances pour gouverner. Donc c'est un autre des enjeux qui est là aujourd'hui. Si on se base sur ça, c'est qu'il y aura même une collaboration entre les partis. Et je pense qu'il y a certains partis qui risquent même de disparaître parce qu'ils ne vont pas chercher à discuter entre eux, à parler entre eux. Il y aura des alliances un peu au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que les gens doivent se battre par rapport à ça et ne pas dire que c'est moi qui ai gagné, c'est moi seul qui vais rester là pour gouverner. Donc c'est déjà un enjeu également qui va permettre aux uns et aux autres de comprendre le bien fondé de comment on gère le pays. On ne peut pas se dire que si moi je ne passe pas, les autres là ne vont pas passer. Donc il faut oublier certaines choses qu'on a eu à assister. Et aujourd'hui, se mettre sur le terrain, dire que les élections régionales et les élections législatives sont d'une importance capitale aujourd'hui dans notre pays, parce que ce sont nos représentants nationaux là qui vont faire tout pour qu'on ait un président et un président du Conseil des ministres.
D'accord, l'enjeu est de taille. Alors, Sylvestre, je ne sais pas comment vous expliquer ce fait. Il y a le Conseil épiscopal du Togo qui a adressé un courrier à la CENI pour l'observation, pour envoyer des observateurs sur le terrain, et 500 d'ailleurs. Mais la CENI a répondu au Conseil épiscopal que il doit y avoir alors de preuve, alors de financement, hein, pour que du moins, si on leur accorde l'autorisation alors d'avoir des observateurs sur le terrain. Et donc, ce qui veut dire que ça a été refusé. Comment vous expliquez cela?
Non, ce n'est pas une première. Je crois que la même version ou la même chose a été servie au Conseil épiscopal lors de l'élection de 2020, je crois. Oui, c'est la rengaine habituelle, en fait. Vous savez, bon, demander à l'Église de prouver ses sources de financement, encore que ceux qui demandent peut-être à l'Église de le faire vont à l'Église. Ils cotisent. Et quand ils cotisent à l'Église, n'a que ses sources de financement. Maintenant, si l'Église catholique veut déployer 500 et observateurs sur le terrain. C'est d'ailleurs peu. L'Église catholique, c'est une institution. Vous savez, l'Église catholique, c'est une institution. Et vous allez dans le milieu le plus reculé du Togo, vous aurez une Église catholique. Et donc, si on demande au diocèse de se mobiliser, et donc de donner, hein, de fournir un certain nombre donc, de personnes pour surveiller, c'est vite fait. C'est vite fait. Voyez-vous, vous prenez donc de Djankassé à Sékassé, vous aurez le nombre donc, d'églises catholiques que nous pouvons compter sur le territoire. C'est énorme. Donc, c'est d'ailleurs plus facile pour l'Église catholique. Il suffit juste qu'on demande donc au diocèse de ce côté, mobilisez-vous, donnez-nous un certain nombre donc de personnes pour superviser donc les élections dans la zone, et c'est fait. Donc on le fera sur toute l'étendue du territoire national. Voyez-vous? Donc c'est très facile. Maintenant, quand on demande à l'Église de mobiliser, de prouver ses sources de financement. Bon, attends, vous savez, non, disons clairement les choses. Peut-être que nous ne voulons pas que vous regardez trop dans la marmite, quoi. Nous voulons pas vous regarder trop. Vous savez, l'Église catholique, hein, de part donc les anciens qui ont fait les observations, ils ont dit les choses telles qu'ils ont vues sur le terrain. Ils ont fait un rapport qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Ils ont dit les choses telles qu'ils ont avec des preuves. Bon, peut-être qu'on ne veut plus que ce genre de choses se passent. Peut-être, hein.
Alors, en quoi l'observation de l'Église catholique doit se gêner?
Non, je pense pas. Tu sais, c'est des critères qui sont posés pour être admis, comme accrédité pour faire des élections. J'espère que la CENI a envoyé une lettre réponse pour dire qu'il y a d'abord les sources de financement et ensuite que l'Église n'a pas répondu à certains critères de sélection ou d'accréditation. Je pense qu'il y a un test qu'il faut respecter. Étant donné que normalement l'Église catholique devait tirer les enseignements de ce qui s'est passé, je pense en 2020, où la liste, ils ont été refusés aussi de faire choses et d'être dans les règles, dans les normes, avant de poser ces choses. Donc, parce qu'il y a la liste des critères qu'il faut suivre. À part le financement, donc il y a certains critères-là qui n'ont pas été répondus, selon les explications de la CENI. C'est pour cela que
mais
ça
je crois que dans la lettre de la CENI qui circule sur les réseaux sociaux, je crois que c'est l'élément financement qui
justement
est,
ils ont aussi expliqué quelque chose, qu'il y a des critères sur lesquels
justement ils ont cité le critère financement. Il se peut que peut-être qu'ils auraient rempli les autres critères
et que le
donc c'est ça qu'il faut. Donc je sais pas, je pense pas que l'observation doit déranger, puisque il y a les autres aussi, les organisations de la société civile qui ont été accréditées pour aussi surveiller le cas par exemple de Cassid qui doit aussi faire l'observation électorale. Je pense que ce n'est pas ça, mais c'est que si ils avaient répondu aux critères, étant donné qu'ils ont eu les mêmes problèmes auparavant, ils devaient être en norme avant même que les choses là ne se passent, puisque on dit que si tu as été piqué, mordu par un serpent, tu as aussi perdu de verre de terre. Donc, il faudrait prendre les dispositions pour éviter. Si ce n'est pas chose, sinon les autres organisations de la société civile ont été acceptées, accréditées. Pourquoi c'est l'Église catholique qu'on refuse?
C'est la question.
Oui.
Et Sylvestre, nous allons terminer par cette question que vous posez à la une de votre journal hein, ce matin, parlant de la nouvelle constitution. Vous écrivez « Nouvelle constitution, c'est fait, que sera demain ?» Alors, justement, que des Togolais doivent alors se poser cette question, ou du moins c'est la question qui taraude l'esprit des Togolais.
Oui, que sera demain? C'est une question parmi tant d'autres que nous sommes posées ce matin, vous savez. La nouvelle constitution s'est faite, comme nous l'avions dit, c'est adopté la dernière fois avec 87 sur 87. Bon, du moins, tous les députés qui étaient présents à l'hémicycle ont voté pour, donc ont voté oui pour la nouvelle constitution. Maintenant, vous savez qu'en amont, dans les débats, il y a toujours donc certains thèmes qui reviennent très souvent. On parle donc de coup d'état constitutionnel, on parle donc de crimes imprescriptibles, on parle donc de retrahison. Lorsque vous voyez donc dans nos dispositions, il y a donc tous ces éléments-là ont été prévus. Et donc, ceux qui enfreignent donc à ces dispositions-là, il y a également des conséquences. Voyez-vous? Alors, si c'est vrai que ce qui s'est passé la dernière fois, et c'est-à-dire le 19 avril, d'abord le 25 mars et le 19 avril, si c'est vrai que c'est un crime imprescriptible, d'abord si c'est vrai que c'est un coup d'État constitutionnel, si c'est vrai que c'est un crime imprescriptible, donc que sera demain? Que sera demain? C'est-à-dire que si demain, on arrive à prouver véritablement, vous savez, l'histoire, la roue de l'histoire tourne, hein, elle tourne là où nous parlons, donc la roue continue par tourner. Si demain, ceux qui le disent aujourd'hui arrivent à le prouver donc devant un juge, que ceux qui étaient dans ce fait-là ont réellement commis un coup d'état constitutionnel et que c'est un crime imprescriptible, ça veut dire que tôt ou tard, ils reprendront devant la loi. Voyez-vous? Et l'image que nous avons souvent eue au Cambodge, il y a un certain douche qui a massacré donc les populations et tout ça, qui se disait que non, en fait, il a c'est sur instruction donc des autorités et tout ça. Douche est décédé, mais après, des années plus tard, le monsieur a été condamné. C'est vrai qu'il est décédé, il a été condamné et son tombeau a été scellé par décision judiciaire. Vous voyez un peu le déshonneur que cela fait. Donc c'est pourquoi je dis que sera demain. Si c'est vrai, ceux qui le disent aujourd'hui, que c'est un coup d'état constitutionnel et que c'est un crime imprescriptible, ça veut dire que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on pourra encore revenir sur ce fait. Et s'ils arrivent à prouver devant un juge et qu'ils établissent véritablement la responsabilité de ceux qui l'ont posé, ça veut dire qu'ils seront devant, ils vont reprendre donc de leur, des faits qu'ils ont posés donc des années plus tôt. Voyez-vous donc, que sera demain, on verra. Demain, donc, on nous donnera donc des précisions.
Alors, est-ce qu'on doit craindre pour demain?
Non, moi je ne pense pas qu'on doit craindre pour demain parce que les gens ne se sont pas levés seuls pour faire ça. Il y a une loi qui régente le pays, la loi fondamentale du pays qui autorise à faire quelque chose. Lorsque vous portez plainte, c'est qu'on va considérer tous ces aspects-là.
Il y a des paramètres à
prendre. Il y a des paramètres à considérer avant qu'on aille. Parce que quand vous allez devant un tribunal, on voit le fond de la chose et la forme également de la chose. Aujourd'hui, la forme, c'est que les députés qui ont voté la loi là, ils ont 4 cinquièmes ou bien si les 4 cinquièmes ne sont pas atteints, n'ont pas été atteints, on renvoie ça au référendum. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ce qui veut dire que les gens sont fondés, sont basés sur une loi pour aller poser cet acte. C'est que la constitution même a ouvert une brèche qu'il ne fallait pas faire. Il fallait que cette constitution là nous dise que vous êtes là pour continuez votre fonction, mais vous n'avez pas le droit de toucher à ceci, à cela. Et l'article-là devait être clair dans ça. Aujourd'hui, on nous a laissé dans un truc, dans une situation où ceux qui sont là disent qu'avec 4/5, on peut avoir une nouvelle constitution sans aller au référendum. Et les gens sont entendus et ils ont fait ça pour avoir les 4/5, plus de 4/5 même des députés, pour avoir une nouvelle constitution sans passer par le référendum. Donc, je ne vois pas, moi, je n'ai pas de crainte pour demain parce que les gens, quand on veut parler juridiquement, c'est sur la loi, on juge. On ne parle pas des émotions ou bien des sentiments. On prend toujours la loi. Vous allez devant un tribunal, c'est la loi qui est appliquée. Qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que la loi a prévu par rapport à ça? Et c'est tout. Et c'est sur cette base-là qu'on juge. C'est sur cette base-là qu'on délibère. S'il n'y avait pas cette loi, moi j'appellerais ça au coup d'état constitutionnel. Mais écoute, ça c'est de la politique ou bien de l'émotion qui le fait. Aujourd'hui, tel que la loi leur dit, faites ceci, vous pouvez faire, vous êtes en fonction, vous pouvez travailler. Vous avez fait selon la loi. Et la loi vous autorise à faire ça. Donc il n'y a pas de problème. Moi j'ai pas de crainte par rapport à demain. Peut-être que ce qu'il faut avoir, s'il y a une majorité demain c'est cette majorité qui va venir dire que on n'est pas d'accord. On doit aussi revoir cette constitution et revenir à l'ancienne constitution et l'améliorer un peu.
D'accord. Ok. Il est déjà midi. Nous allons écouter aussi nos auditeurs. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, donc nous allons leur donner la parole. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Je voudrais vraiment faire cette mise au point avant quand même que nous donnions la parole à nos auditeurs. C'est très important, nous sommes en train de faire un débat intellectuel, un débat d'idées et c'est aussi ça le jeu démocratique. Il est très important que nous qui sommes à la maison et qui écoutez même d'ailleurs cette émission, il est très important alors de s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. pas des personnes quand même qui ont donné leur opinion. Non, nous n'allons quand même pas attaquer les gens qui ont donné leur opinion. Mais il suffit tout simplement alors de donner votre opinion sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Merci hein, pour votre aimable attention. Alors maintenant, nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Basile.
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Je salue les deux journalistes.
D'accord.
Bon, vous dites que vous avez tout expliqué. Hein. C'est vrai, on ne doit pas s'attaquer aux gens. Sauf que vous ne savez pas ce que ça nous fait quand on les écoute. L'autre parle d'un article. Moi, je lui oppose un autre article, le 59, qui dit que chaque fois qu'on doit toucher le mandat du président, c'est par référendum. Il n'y a pas autre chose. Le 144, le 108, 109, tout ça là, ça ne, l'article 59 bat tout ça en brèche. C'est de ça, mais vous allez venir défendre ça modicus. Et puis nous, on doit accepter ça comme ça. Qu'est-ce que ça coûte à ce gouvernement de faire le référendum si tant est qu'il sait qu'il est populaire? Il sait que ce qu'il est en train de proposer est bon. Moi, je ne vous comprends pas. Personne ne s'attaque à l'autre. C'est de vouloir venir nous faire avaler la couleuvre de cette manière-là. C'est ça que nous ne voulons pas.
Non, Basile,
je vous remercie.
Merci beaucoup. Mais Basile, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui donnent aussi des opinions divergentes. Hein, des opinions divergentes sur le plateau ici. Et nous acceptons tout. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Non, ça ne va pas.
D'accord, c'est commis.
Bien sûr.
Voilà, je sais que ça ne va toujours pas chez Comi.
Oui, c'est-à-dire la manière dont, moi aussi je pense que le pays doit être pour que je puisse le laisser à mes générations, ce n'est pas ça. Du temps de votre collègue Sass, je le salue d'ailleurs, on a lutté que lorsque vous invitez les gens, qu'ils ne partent pas, qu'ils restent pour faire un débat contradictoire, répondre à nos questions.
Comi?
Oui.
Oui, en fait, ici, nous sommes dans ce que nous appelons une communication électorale. Et donc, ils sont venus faire leur communication.
Donc, vous acceptez qu'ils viennent nous dire de n'importe quoi?
Non, mais attends.
Ils partent et on n'a pas droit de répondre.
Après tout, nous sommes aussi une radio commerciale, Comi.
Je ne refuse pas. Mais cette garantie qu'on nous a donnée dans le passé, on ne veut pas le perdre. Maintenant, si je te pose les questions, tu vas me répondre. Tu vas me dire que tu n'es pas l'invité. Et
Comi,
c'est ça qu'on ne fait plus.
Non,
c'est
sûr, réagissez. Oui, réagissez sur des sujets débattus.
C'est à cela que je viens.
Allez-y.
C'est sûr là qui nous prône le dialogue. Même si votre rubrique commerciale dit qu'on ne va pas recevoir d'invités, lui, en tant que garant du dialogue, peut demander je reste juste à écouter les auditeurs. Avant de partir.
Oui, mais comme nous sommes en train de perdre encore du temps, s'il vous plaît.
Non, ce serait mieux. Remarque.
Oui, mais
je reviens sur
il faut aller directement. Oui.
Sur le débat, comme M. le premier auditeur venait de le dire, l'article 144, qui plus est, allez le chercher et le lire. On dit l'initiative de la révision appartient au 1/5, concurremment au président de la République. On n'a pas dit l'initiative de la révision ou bien non plus, l'initiative de la réécriture, ou bien l'initiative du changement. Les gens sont allés changer notre constitution, et ils se cachent derrière une quelconque révision pour dire que la révision peut déboucher sur le changement. Et on ne marche pas avec la tête. Nous avons les pieds sur le sol, la tête sur les épaules. On ne peut pas conduire le pays comme ça. Jusqu'à ce jour, moi, comme avec mon mot, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis dans la nouvelle constitution. Qu'est-ce que je vais dire à mes générations? Témoin de fait. C'est absurde.
D'accord. Merci beaucoup, Comi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Oui, allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, votre nom c'est?
C'était Agbovon depuis Zanguera.
Agbovon depuis Zanguera. Agbovon, oui. Allez-y.
Oh, monsieur. Et moi, je vais demander à nos chers honorables prochains là de ne pas nous amener dans cette cinquième république dont je parle surtout à mon président. Il ne faut pas qu'il nous promulgue cette cinquième république, la constitution là. Moi, je dis non. Je dis ça au nom du peuple togolais. Vous, les journalistes aussi là-bas, je dis ça en votre nom. Merci.
Merci beaucoup, Agbovon. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô. Allô, bonjour.
Allô, bonjour, Panala.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Je vais bien. C'est Nestor.
Nestor.
Depuis Agoué.
Depuis Agoué. Allez-y.
Oui, voilà. Ma question, c'est ceci pour le journaliste. Les élections officielles, c'est l'un des motifs qui accompagner le projet de réforme constitutionnelle. Ma question, pourquoi les institutions internationaux ne peuvent pas mettre l'argent dans les élections? Cela s'est fait sous votre siège. Merci.
D'accord, merci beaucoup Nestor. 22 21 33 114 91 36 315. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour monsieur.
Oui, votre nom c'est?
Monsieur Edo.
Monsieur Edo, vous nous appelez de quel quartier?
Kégué.
Kégué, allez-y, monsieur Edo.
D'accord, moi j'ai juste deux questions à poser à vos amis qui sont là-bas. La première, est-ce que la constitution là, s'il y a des articles qui sont plus importants que d'autres, c'est-à-dire est-ce qu'on peut respecter un ou bien l'autre, on laisse tomber? Parce que moi je suis revenu de l'étranger et puis je vois le débat. On a dit que les 4/5 peuvent modifier. On est d'accord. Ça, c'est un acquis qu'on a respecté. Maintenant, je ne sais pas, à eux de nous éclairer. Est-ce que dans la Constitution, il n'est pas prévu quand est-ce qu'on doit faire les élections avant la fin des mandats d'un député, par exemple? Est-ce qu'il n'est pas prévu? Est-ce qu'il est prévu qu'on doit faire 3 mois avant, 2 mois avant, 1 mois avant?
Oui, c'est 30 jours avant. Je pense quand même que cette question, il y a la Constitution qui donne déjà la réponse, bien sûr. C'est 30 jours avant. La fin
30
du mandat.
Jours avant.
Oui, avant la fin du mandat des députés.
Et pourquoi ça n'avait pas été fait? Et si, est-ce qu'on peut dire que là, la loi, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement respecte la Constitution à la lettre si ça n'a pas été fait? C'est juste ma question, qui nous éclaire calmement sa passion.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Edo. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô?
Oui, allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Oui, je vais bien.
Votre nom c'est?
C'est Daniel.
Daniel, vous nous appelez de quel quartier?
Daniel depuis Huiti.
Huiti.
Oui.
Allez-y.
Ok. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que il faudrait que les autres auditeurs sachent qu'on ne peut pas faire la volonté de tout le monde. Ce que vous faites là-bas, c'est un travail que vous vous êtes donné. Et ils doivent aussi respecter ce que vous dites.
Ah, Daniel est parti. Daniel, vous pouvez rentrer hein, de nouveau. 22-21-33-114. Allô?
Allô?
Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô? Bonjour, c'est Monsieur Comlavie.
Monsieur Comlavie, vous nous appelez de quel quartier?
Je suis à Agoué.
Agoué, allez-y.
Je salue les gros confrères au plateau.
D'accord.
Oui, j'aimerais vraiment dire aujourd'hui que c'est un coup constitutionnel ce que les députés ont fait. C'est vraiment de mépris. Parce que la loi dit que c'est les députés restent en place. Et lorsqu'ils restent en place, c'est pour continuer leur travail. Je ne peux pas dire que lorsqu'on dit à un soldat de rester au poste, jusqu'à ce que son remplaçant vient, il sera là en dormant. Il doit veiller comme il était. Et aujourd'hui, s'il faut vraiment parler d'erreur, peut-être c'est la condition même qu'il faut accuser. La condition n'a rien dit par rapport à ça. Normalement, il devait ajouter les prérogatives de ces députés qui vont rester au poste. Si ce n'est pas dit, ce n'est pas après avoir exercé légalement et légitimement le droit, qu'un jour, on va dire qu'on va avoir la peur qu'on les traduit en justice. Donc, je pense qu'ils ont fait un travail selon ce que la loi demande et ils n'ont pas à craindre le lendemain. que les Togolais ne soient pas haineux par rapport à ça et ne rêvent pas qu'un jour ils seront traités de ceux qui ont tué bien détruit la Constitution. C'est ce que la loi dit. Il fallait vraiment préciser dans la loi. Comme l'a dit un de vos confrères, au moment où ils ont exercé librement et légalement la loi.
D'accord.
C'est ce que je voulais ajouter.
Merci.
Que les gens soient apaisés, calmes, qu'il n'y aura rien qui vont passer. S'il a dit quelque chose, c'est accuser la Constitution de 92 qui n'a pas bien explicité la loi de cet article.
D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Comme l'avis, 22 21 33
114. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, c'est Tonton-Vie de Clicamé.
Tonton-Vie depuis Clicamé. Allez-y.
Oui, moi je voulais juste me prononcer sur la non-accréditation au collège des catholiques.
Le conseil épiscopal.
Je voudrais juste attirer l'attention du peuple togolais. Non seulement l'église catholique a mis en place les églises, a mis en place les établissements pour la formation de nos jeunes, a mis en place les centres de santé, mais à aucun moment, l'État n'a jamais demandé d'où sort cet argent pour que ces églises aillent immobiliser leur capital. Tout le monde sait que le Vatican a suffisamment d'argent plus que l'ONU, a suffisamment d'argent plus que la Banque mondiale. Alors comment oser dire qu'il faut qu'ils prouvent leur source de financement avant de donner une accréditation? Là, je dis quelque part qu'ils sont en train de mépriser les catholiques et tous les croyants de ce pays. Ça, c'est un. Deuxième chose, nous avons toléré l'assassinat de Silvano Sonnecchio dans ce pays. Il n'y a aucun mouvement qui a été fait. Et cela nous tue comme un signe indien. Ça a été une erreur. Un mauvais exemple pour l'Afrique. C'est le premier coup d'État. En 2005, ça a été également un mauvais exemple. Et ces pays qui ont suivi sont en train de le copier. Si le peuple togolais accepte encore ce qui se passe, je vous assure que certains pays d'à côté vont encore emboîter ce mauvais exemple et on dira que c'est toujours le Togo. Je vous en prie, nous allons supplier le chef de l'État. Nous le supplions de ne pas promulguer ce vote que nos représentants de l'Assemblée ont voté le 19 passé.
D'accord. Merci beaucoup, Tonton Vie. 22 21
314.
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Ça va. C'est Monsieur Mahouto.
Oui, Monsieur Mahouto.
Oui, salut le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
Attends, pas pour vous attaquer. Hein. Juste pour dire à Monsieur Abbas que...
Oui, Monsieur Mahouto, c'est ce que moi j'ai refusé. C'est-à-dire...
Non, c'est pas l'attaquer.
Oui. Non. Quand, vous savez, votre idée, ce que vous voulez dire, dites-le dans une courtoisie donnée.
Ok, c'est bon.
Et
ce n'est pas un État normal en matière démocratique. Alors, il n'y a aucun enjeu. Tout est fait déjà. C'est quoi que moi je vais dire? Le lobby parlementaire n'est pas bon pour le Togo. Le Togo, la justice n'est pas équitable. Comment est-ce qu'on peut pratiquer ce régime dans un pays qui est anormal? Merci, mon ami.
Merci beaucoup. Vous voyez que ça a été accepté, hein, ce que vous venez de dire. 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Oui, votre nom c'est
Bruno.
Bruno,
oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
De Kégué.
Kégué, oui. Allez-y.
Je vais faire un petit commentaire par rapport à nos autorités.
Oui, monsieur Bruno.
Oui.
Si vous pouvez hausser la voix, ce serait très intéressant.
D'accord, je disais que je voulais un peu faire un petit commentaire. À ce que je sache, chez moi, un pays kabyen, quand on veut faire la lutte, le plus fort, même s'il est fort, peu importe ce qu'il est, il va toujours terrasser. Il ne cherchera pas des voies et moyens pour pouvoir s'aider. Si, moi, ce que je vois, si le parti uni, sachant très bien qu'il est fort, normalement, il devait donner l'opportunité à tout le monde de se retrouver sur le terrain et de montrer la force de tout un chacun. Maintenant, lui, on voit qu'ils ont bloqué tout, mais au même moment, c'est eux qui crient qu'ils sont forts. Moi, je conclue en disant que c'est une faiblesse. Le second point, j'ai voulu qu'on laisse un héritage à nos enfants, en la vérité. Ce que les évêques ont dit dans le truc. On ment tellement que, franchement, mais ce n'est pas bien. Vous allez voir les gens tenir micro, mentir comme ça, à cause de leur ventre, mais nous oublions demain. Que Dieu protège notre pays.
Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur Bruno. 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous allons recevoir le dernier auditeur. Allô?
Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour, Kanidek.
Comment ça va?
Ça va, et chez vous?
Ah, ça va bien.
D'accord.
Bon, et je pense que dans toute émission, il y a la reine du jeu. Il faut qu'on respecte la reine du jeu.
C'est très important.
Oui. Et ce que moi, j'aimerais dire, c'est qu'au Togo, on aime trop interpréter les choses. Mais même si le texte est clair, on veut coûte l'interpréter. C'est en ce moment qu'on fait faux signe. On agit finalement hors la loi. Si moi, je prends par exemple la cité qui parle des 4/5 des députés pour aller, bon, pour modifier selon la condition qui est en cours. Il faut avoir les 4/5 pour pouvoir modifier la constitution. Bon, et si moi aussi, je veux interpréter cet article-là, l'article n'a pas précisé au moins ou bien au plus 4/5. Donc, le vote qui vient d'être fait, ça fait plus de 4/5. Mais si je dis ça, les gens vont me dire qu'il faut mettre en jeu l'esprit de la loi. Et si moi aussi, je prends ce commentaire, moi, je dois inviter le chef d'État et de l'État à ne pas promulguer cette nouvelle constitution. Parce que ce n'est pas adopté au 4/5. Ça a été adopté au plus 4/5. Voilà le problème que nous avons au Togo. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup, Kanidek. Michel nous permet alors de recevoir encore un dernier auditeur. Allô?
Oui, merci, c'est Basile. Hein?
Oui, Basile.
Oui.
Oui.
Bon, vous-même, vous allez voir pourquoi nous, on ne veut pas cette constitution. C'est le fait que on ne veut même pas que l'Église catholique, qui a mis les écoles dans ce pays, qui a tout fait. Nous, on a fait la confession catholique. Et ils n'ont pas demandé de l'argent au gouvernement. Le gouvernement n'a jamais demandé où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire tout ça là. On refuse. L'année 2020, on a refusé. Cette fois-ci, ils ont réduit leur truc à la baisse. 500 observateurs. Ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas que les gens viennent voir. Mais on ne peut pas accepter le régime parlementaire à partir du moment où on n'a pas d'élection claire. Ils veulent toujours voler les élections.
D'accord.
C'est okay. De ça qu'il est question.
Ok, merci beaucoup, Basile. Alors, nous revenons au plateau. Nous revenons au plateau ici, hein, pour faire un tour de table et parti. Est-ce que vous avez écouté les uns les autres se prononcer, hein, sur les sujets débattus ici au Club de la Presse? La politique, ça nous intéresse tous, hein, Sylvestre?
Oui. Écoutez, j'ai écouté beaucoup de personnes réagir sur ce qui s'est passé. Vous savez, ce qui s'est passé la dernière fois a induit beaucoup de personnes en erreur. Moi, je continue de le dire. Beaucoup ont cité l'article 59 là, qui dit que s'il faut changer donc le mandat du président de la République, hein, le deuxième alinéa prévu, donc il faut aller à un référendum. Maintenant, l'article 144 que beaucoup citent et qui disent qu'il leur donne droit de modifier, de changer la constitution. Je vais vous lire posément cet article et vous verrez si quelque part il est dit donc de changer la constitution. L'article 144, il dit l'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au président de la République et à 1/5 au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Alinéa 2. Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité donc des 4/5 des députés concernant l'Assemblée nationale. Je m'arrête là. Est-ce que là, on parle de révision, on ne parle pas de changement de constitution? C'est pourquoi j'ai dit que ce qu'il a fait la dernière fois, en aucun cas les députés n'ont pas le droit de changer la constitution. Ce n'est pas prévu. Ici, l'article 144 parle de révision. Et nous savons que révision ne veut pas dire changement de constitution. Voyez-vous? Donc, ce qui s'est passé la dernière fois a eu beaucoup de personnes en erreur. Tout le monde cite l'article 140 comme en parlant donc de 1 cinquième, de 4 cinquièmes. Oui, 1 cinquième c'est dit, 4 cinquièmes c'est dit. Mais, lorsqu'on parle de révision des textes, c'est-à-dire on modifie, on peut modifier quelques dispositions constitutionnelles. Mais en aucun cas, l'article 144 ne donne droit aux députés de changer la constitution d'un pays. Voyez-vous, d'accord. C'est de cela qu'il est question en réalité. Mais ce qui s'est fait, a fait, a induit tout le monde en erreur et on dit non, et ça peut venir du président, ça peut venir de 1 cinquième, ça peut venir de 4 cinquièmes, oui, d'accord. Mais ça ne peut venir de 1 cinquième du président des 4 cinquièmes lorsqu'il s'agit de révision des dispositions, d'accord. Pas de changement de la constitution. Mmh. Voyez-vous.
Voilà, c'est des thèmes alors de concept et ou de, justement des explications ou des significations justement ou des définitions alors des concepts. J'allais dire.
Et certains disent que et généralement, vous savez, c'est là où les gens interprètent. Ils disent révision peut dire changement. Voyez-vous. Mmh. Et c'est ce que nous écoutons. On dit révision peut dire changement.
Oui, chacun l'interprète de sa manière. Abbas.
Oui, c'est des interprétations chacun fait et tire le drap de son côté. Parce que vous voyez que...
Puisque la loi est aussi interprétative.
La loi est aussi interprétative. Donc, ce que nous avons appris, c'est que quand vous prenez une loi, chacun l'interprète à sa manière. Et vous voyez ce qui,
oh, ici, passe, le texte est clair.
Ce qui se passe dans cette constitution de 92. Ça veut dire qu'il y a des lois qui disent une chose et leur contraire à la fois dans la même constitution. On donne le droit à certaines choses et de l'autre côté, on dit vous ne pouvez pas. Ici, vous dites que vous pouvez. Donc, voilà, chacun va prendre ce qui l'intéresse et ce qui l'arrange. Il n'y a pas moyen d'interpréter. C'est l'interprétation de la loi. La loi est claire. On dit, on n'a jamais parlé là. Ce n'est pas écrit, on a changé de constitution. Les gens disent, on a révisé la constitution. On n'a pas parlé de changement de constitution. On dit, on a révisé, révision de la constitution.
Donc on revise, finalement, on revise et puis on va dans un
puisque
dans
une autre république. Ce ne sont pas tous les articles qui ont été touchés dans cette révision de constitution. Et les gens disent, bon, nous sommes en train de réviser la constitution. La constitution, il y a certains thèmes qu'on ne peut même pas toucher dans la constitution et qui doivent faire l'objet de référendum direct.
Mais là, c'est une nouvelle constitution.
C'est une nouvelle constitution.
Là, c'est la monarchie.
C'est une nouvelle constitution.
Et la laïcité. De la République. Aujourd'hui, on n'a pas touché à la monarchisation de la République. On n'a pas dit que le Togo est devenu un État laïque. Oui, un État de choses. Le Togo est un pays laïque actuellement. C'est une République.
D'accord.
Donc, il y a des problèmes que chacun interprète à sa manière et le Togolais est toujours comme ça.
D'accord.
Nous allons dire que...
Mais le Togolais doit changer.
Il doit changer comment?
D'accord, nous sommes à la fin de cette émission.
Le Togolais va changer comment?
Oui,
on est là.
Non, mais
nous a déjà mis ça dans la tête.
Chers confrères, hier, j'ai partagé un écrit avec nos confrères et aussi avec des auditeurs. Oui. Je voudrais l'appeler juste. Alors, cet écrit, il semble que c'est... Enfin, c'est l'Église catholique qui s'adresse alors aux électeurs qui iront aux urnes le 29 avril prochain. L'Église appelle chacun à voter selon sa conscience. Science, puisque c'est les 10 commandements de l'électeur, et l'Église appelle chacun à voter selon sa conscience et à respecter le choix des autres citoyens, c'est un. En deux, l'Église recommande aux votants de chercher à mieux connaître chacun des candidats en vérifiant s'il est honnête, juste, compétent, capable de gérer la nation pour le bien de tous. En trois, tu ne vendras pas ton vote alors pour un sac de riz, du sucre ou de l'argent. Tu ne choisiras pas alors les candidats qui prônent la violence ou menacent les autres. En cinq, tu n'éliras pas des candidats corruptibles ou corrompus ou corrupteurs. Six, tu ne choisiras pas un candidat simplement à cause alors de sa religion, de son ethnie, de son appartenance familiale ou de sa popularité. Sept, tu choisiras le candidat qui est le plus respectueux des valeurs morales. Huit, tu choisiras le candidat qui aime le plus son pays et qui est déterminé à le servir et non à s'en servir. 9. Tu prendras le temps de revenir pour assister au dépouillement. 10. Tu veilleras au convoiement des urnes à leur destination appropriée. Je pense quand même que c'est des commandements qu'on doit appliquer.
Attends, ces commandements sont sortis avant donc de saisir la CENI.
Non, je ne pense pas.
Je ne sais pas si vous voyez le rapport.
Alors, merci beaucoup, cher confrère. Et si bien, ce que aussi à toi. Merci, Abbas, d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tobega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakout a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Au revoir.